Marcel Proust. À la recherche du temps perdu, la prisonnière. Note de l'éditeur. Le texte dactylographié du présent ouvrage, qui forme le tome 5 d'À la recherche du temps perdu, nous avait été remis par Marcel Proust, peu de temps avant sa mort. La maladie ne lui ayant pas laissé la force de corriger complètement ce texte, une révision très soigneuse sur le manuscrit en fut entreprise, après sa mort, par le docteur Robert Proust et par Jacques Rivière. C'est le résultat de ce travail, où nous espérons qu'un minimum d'imperfections se laissera découvrir, que nous publions aujourd'hui. L'éditeur. Chapitre 1. Vie commune avec Albertine. Dès le matin, la tête encore tournée contre le mur, et avant d'avoir vu, au-dessus des grands rideaux de la fenêtre, de quelle nuance était l'arrêt du jour, je savais déjà le temps qu'il faisait. Les premiers bruits de la rue me l'avaient appris, selon qu'ils me parvenaient, amortis et déviés par l'humidité, ou vibrant comme des flèches, dans l'air résonnant et vide d'un matin spacieux, glacial et pur. Dès le roulement du premier tramway, j'avais entendu s'il était morfondu dans la pluie ou en partance pour l'azur. Et, peut-être, ces bruits avaient-ils été devancés eux-mêmes par quelque émanation plus rapide et plus pénétrante qui, glissée au travers de mon sommeil, y répandait une tristesse annonciatrice de la neige, ou y faisait entonner, à certains petits personnages intermittents, de si nombreux cantiques à la gloire du soleil que ceci finissait par amener pour moi, qui encore endormi commençais à sourire et dont les paupières closes se préparaient à être éblouies, un étourdissant réveil en musique. Ce fut, du reste, surtout de ma chambre que je perçus la vie extérieure pendant cette période. Je sais que Bloch raconta que, quand il venait me voir le soir, il entendait comme le bruit d'une conversation. Comme ma mère était à Combray et qu'il ne trouvait jamais personne dans ma chambre, il conclut que je parlais tout seul. Quand, beaucoup plus tard, il apprit qu'Albertine habitait alors avec moi, comprenant que je l'avais cachée à tout le monde, il déclara qu'il voyait enfin la raison pour laquelle, à cette époque de ma vie, je ne voulais jamais sortir. Il se trompa. Il était d'ailleurs fort excusable, car la réalité même, si elle est nécessaire, n'est pas complètement prévisible. Ceux qui apprennent sur la vie d'un autre quelques détails exacts en tirent aussitôt des conséquences qui ne le sont pas, et voient dans le fait nouvellement découvert l'explication de choses qui précisément n'ont aucun rapport avec lui. Quand je pense maintenant que mon ami était venu, à notre retour de Balbec, habiter à Paris sous le même toit que moi, qu'elle avait renoncé à l'idée d'aller faire une croisière, qu'elle avait sa chambre à 20 pas de la mienne, au bout du couloir, dans le cabinet à tapisserie de mon père, et que chaque soir, fort tard, avant de me quitter, elle glissait dans ma bouche sa langue comme un pain quotidien, comme un aliment nourrissant et ayant le caractère presque sacré de toute chair, à qui les souffrances que nous avons endurées à cause d'elle ont fini par conférer une sorte de douceur morale. Ce que j'évoque aussitôt par comparaison, ce n'est pas la nuit que le capitaine de Borodino me permit de passer au quartier, par une faveur qui ne guérissait en somme qu'un malaise éphémère. Mais celle où mon père envoya maman dormir dans le petit lit à côté du mien. tant la vie, si elle doit une fois de plus nous délivrer d'une souffrance qui paraissait inévitable, le fait dans des conditions différentes, opposées parfois jusqu'au point qu'il y a presque sacrilège apparent à constater l'identité de la grâce octroyée. Quand Albertine savait par Françoise que, dans la nuit de ma chambre, aux rideaux encore fermés, je ne dormais pas, elle ne se gênait pas pour faire un peu de bruit en se baignant dans son cabinet de toilette. Alors, souvent, au lieu d'attendre une heure plus tardive, j'allais dans une salle de bain contiguë à la sienne et qui était agréable. Jadis, un directeur de théâtre dépensait des centaines de mille francs pour consteller de vraies émeraudes le trône où la diva jouait un rôle d'impératrice. Les ballets russes nous ont appris que de simples jeux de lumière prodiguent, dirigés là où il faut, des joyaux aussi somptueux et plus variés. Cette décoration, déjà plus immatérielle, n'est pas si gracieuse pourtant que celle par quoi, à 8 heures du matin, le soleil remplace celle que nous avions l'habitude d'y voir quand nous ne nous levions qu'à midi. Les fenêtres de nos deux salles de bain, pour qu'on ne pût nous voir du dehors, n'étaient pas lisses, mais toutes froncées d'un givre artificiel et démodé. Le soleil, tout à coup, jaunissait cette mousseline de verre, la dorait, et, découvrant doucement en moi un jeune homme plus ancien, qu'avait caché longtemps l'habitude, me grisait de souvenirs, comme si j'eusse été en pleine nature, devant des feuillages dorés, où ne manquait même pas la présence d'un oiseau. Car j'entendais Albertine siffler sans trêve. Les douleurs sont des folles, et qui les écoute est encore plus fou. Je l'aimais trop pour ne pas joyeusement sourire de son mauvais goût musical. Cette chanson, du reste, avait ravi l'été passé Madame Bontemps, laquelle entendit dire bientôt que c'était une ineptie, de sorte que, au lieu de demander à Albertine de la chanter quand elle avait du monde, elle y substitua « Une chanson d'adieu sort des sources troublées », qui devint à son tour une vieille rengaine de Massenet, dont la petite nous rebat les oreilles. Une nuée passait. Elle éclipsait le soleil. Je voyais s'éteindre et rentrer dans une grisaille le pudique et feuillu rideau de verre. Les cloisons qui séparaient nos deux cabinets de toilette, celui d'Albertine tout pareil, était une salle de bain que maman, en ayant une autre dans la partie opposée de l'appartement, n'avait jamais utilisée pour ne pas me faire de bruit, était si mince que nous pouvions parler tout en nous lavant chacun dans le nôtre, poursuivant une causerie qu'interrompait seulement le bruit de l'eau. Dans cette intimité que permet souvent, à l'hôtel, l'exiguïté du logement et le rapprochement des pièces, mais qui, à Paris, est si rare. D'autres fois, je restais couché, rêvant aussi longtemps que je le voulais, car on avait ordre de ne jamais entrer dans ma chambre avant que j'eusse sonné. Ce qui, à cause de la façon incommode dont avait été posée la poire électrique au-dessus de mon lit, demandait si longtemps que, souvent, las de chercher à l'atteindre et content d'être seul, je restais quelques instants presque rendormi. Ce n'est pas que je fusse absolument indifférent au séjour d'Albertine chez nous. Sa séparation d'avec ses amis réussissait à épargner à mon cœur de nouvelles souffrances. Elle le maintenait dans un repos, dans une quasi-immobilité qui l'aiderait à guérir. Mais, enfin, ce calme que me procurait mon ami était apaisement de la souffrance plutôt que joie. Non pas qu'il ne me permît d'en goûter de nombreuses, auxquelles la douleur trop vive m'avait fermé, mais ces joies, loin de les devoir à Albertine, que d'ailleurs je ne trouvais plus guère jolie et avec laquelle je m'ennuyais, que j'avais la sensation nette de ne pas aimer, Je les goûtais au contraire, pendant qu'Albertine n'était pas auprès de moi. Aussi, pour commencer la matinée, je ne la faisais pas tout de suite appeler, surtout s'il faisait beau. Pendant quelques instants, et sachant qu'il me rendait plus heureux qu'Albertine, je restais en tête-à-tête avec le petit personnage intérieur, salueur chantant du soleil et dont j'ai déjà parlé. De ceux qui composent notre individu, ce ne sont pas les plus apparents qui nous sont le plus essentiels. Et moi, quand la maladie aura fini de les jeter l'un après l'autre par terre, il en restera encore deux ou trois qui auront la vie plus dure que les autres. Notamment un certain philosophe qui n'est heureux que quand il a découvert, entre deux œuvres, entre deux sensations, une partie commune. Mais le dernier de tous, je me suis quelquefois demandé si ce ne serait pas le petit bonhomme fort semblable à un autre que l'opticien de Combray avait placé derrière sa vitrine pour indiquer le temps qu'il faisait, et qui, ôtant son capuchon dès qu'il y avait du soleil, le remettait s'il allait pleuvoir. Ce petit bonhomme-là, je connais son égoïsme. Je peux souffrir d'une crise d'étouffement que la venue seule de la pluie calmerait. Lui ne s'en soucie pas. Et aux premières gouttes, si impatiemment attendues, perdant sa gaieté, il rabat son capuchon avec mauvaise humeur. En revanche, je crois bien qu'à mon agonie, quand tous mes autres, moi, seront morts, s'il vient à briller un rayon de soleil, tandis que je pousserai mes derniers soupirs, le petit personnage barométrique se sentira bien aise et ôtera son capuchon pour chanter « Ah, enfin, il fait beau !» Je sonnai Françoise. J'ouvrais le Figaro. J'y cherchais et constatais que ne s'y trouvait pas un article, ou prétendu tel, que j'avais envoyé à ce journal et qui n'était, un peu arrangé, que la page récemment retrouvée, écrite autrefois dans la voiture du docteur Percepied, en regardant les cloches de Martinville. Puis, je lisais la lettre de maman. Elle trouvait bizarre, choquant, qu'une jeune fille habitât seule avec moi. Le premier jour, au moment de quitter Balbec, quand elle m'avait vu si malheureux et s'était inquiétée de me laisser seule, peut-être ma mère avait-elle été heureuse en apprenant qu'Albertine partait avec nous, et en voyant que, côte à côte avec nos propres mâles, les mâles auprès desquels j'avais passé la nuit à l'hôtel de Balbec en pleurant, on avait chargé sur le tortillard celle d'Albertine, étroites et noires, qui m'avaient paru avoir la forme de cercueil et dont j'ignorais si elles allaient apporter à la maison la vie ou la mort. Mais je ne me l'étais même pas demandé, étant tout à la joie, dans le matin rayonnant, après l'effroi de rester à Balbec, d'emmener Albertine. Mais à ce projet, si au début ma mère n'avait pas été hostile, parlant gentiment à mon amie comme une maman dont le fils vient d'être gravement blessé et qui est reconnaissante à la jeune maîtresse qui le soigne avec dévouement, elle l'était devenue depuis qu'il s'était trop complètement réalisé et que le séjour de la jeune fille se prolongeait chez nous, et chez nous en l'absence de mes parents. Cette hostilité, je ne peux pourtant pas dire que ma mère me la manifesta jamais. Comme autrefois, quand elle avait cessé d'oser me reprocher ma nervosité, ma paresse, maintenant elle se faisait un scrupule que je n'ai peut-être pas tout à fait deviné au moment, ou pas voulu deviner, de risquer, en faisant quelques réserves sur la jeune fille avec laquelle je lui avais dit que j'allais me fiancer, d'assombrir ma vie, de me rendre plus tard moins dévouée pour ma femme, de semer peut-être, pour quand elle-même ne serait plus, le remords de l'avoir peinée en épousant Albertine. Maman préférait paraître approuver un choix sur lequel elle avait le sentiment qu'elle ne pourrait pas me faire revenir. Mais tous ceux qui l'ont vue à cette époque m'ont dit qu'à sa douleur d'avoir perdu sa mère s'ajoutait un air de perpétuelle préoccupation. Cette contention d'esprit, cette discussion intérieure, donnait à maman une grande chaleur aux tempes, et elle ouvrait constamment les fenêtres pour se rafraîchir. Mais de décision, elle n'arrivait pas à en prendre, de peur de m'influencer dans un mauvais sens et de gâter ce qu'elle croyait mon bonheur. Elle ne pouvait même pas se résoudre à m'empêcher de garder provisoirement Albertine à la maison. Elle ne voulait pas se montrer plus sévère que Madame Bontemps, que cela regardait avant tout, et qu'il ne trouvait pas cela inconvenant, ce qui surprenait beaucoup ma mère. En tout cas, elle regrettait d'avoir été obligée de nous laisser tous les deux seuls, en partant juste à ce moment pour Combray, où elle pouvait avoir à rester, et en fait resta, de longs mois, pendant lesquels ma grand-tante eut sans cesse besoin d'elle, jour et nuit. Tout, là-bas, lui fut rendu facile, grâce à la bonté, au dévouement de Legrandin, qui, ne reculant devant aucune peine, ajourna de semaine en semaine son retour à Paris, sans connaître beaucoup ma tante, simplement d'abord parce qu'elle avait été une amie de sa mère, puis parce qu'il sentit que la malade, condamnée, aimait ses soins et ne pouvait se passer de lui. Le snobisme est une maladie grave de l'âme, mais localisée et qui ne la gâte pas tout entière. Moi, cependant, au contraire de maman, j'étais fort heureux de son déplacement à Combray, sans lequel j'eusse craint, ne pouvant pas dire à Albertine de la cacher, qu'elle ne découvrît son amitié pour Mademoiselle Vinteuil. C'eût été pour ma mère un obstacle absolu, non seulement à un mariage, dont elle m'avait d'ailleurs demandé de ne pas parler encore définitivement à mon amie, et dont l'idée m'était de plus en plus intolérable, mais même à ce que celle-ci passât quelque temps à la maison. Sauf une raison si grave et qu'elle ne connaissait pas, maman, par le double effet de l'imitation édifiante et libératrice de ma grand-mère, admiratrice de George Sand, et qui faisait consister la vertu dans la noblesse du cœur, et, d'autre part, de ma propre influence corruptrice, était maintenant indulgente à des femmes pour la conduite de qui elle se fût montrée sévère autrefois, ou même aujourd'hui. Si elles avaient été de ses amies bourgeoises de Paris ou de Combray, mais dont je lui vantais la grande âme, et auxquelles elle pardonnait beaucoup, parce qu'elle m'aimait bien. Malgré tout, et même en dehors de la question des convenances, je crois qu'Albertine eût été insupportable à maman, qui avait gardé de Combray, de ma tante Léonie, de toutes ses parentes, des habitudes d'ordre dont mon amie n'avait pas la première notion. Elle n'aurait pas fermé une porte, et, en revanche, ne se serait pas plus gênée d'entrer quand une porte était ouverte que ne fait un chien ou un chat. Son charme, un peu incommode, était ainsi d'être à la maison moins comme une jeune fille que comme une bête domestique, qui entre dans une pièce, qui en sort, qui se trouve partout où on ne s'y attend pas, et qui venait, c'était pour moi un repos profond, se jeter sur mon lit à côté de moi, s'y faire une place, d'où elle ne bougeait plus, sans gêner comme l'eût fait une personne. Pourtant, elle finit par se plier à mes heures de sommeil, à ne pas essayer non seulement d'entrer dans ma chambre, mais à ne plus faire de bruit avant que j'eusse sonné. C'est Françoise qui lui imposa ses règles. Elle était de ces domestiques de Combray, sachant la valeur de leur maître, et que le moins qu'elles peuvent est de lui faire rendre entièrement ce qu'elles jugent qui lui est dû. Quand un visiteur étranger donnait un pourboire à Françoise, à partager avec la fille de cuisine, le donateur n'avait pas le temps d'avoir remis sa pièce que Françoise, avec une rapidité, une discrétion et une énergie égales, avait passé la leçon à la fille de cuisine qui venait remercier, non pas à demi-mot, mais franchement, hautement, comme Françoise lui avait dit qu'il fallait le faire. Le curé de Combray n'était pas un génie, mais lui aussi savait ce qui se devait. Sous sa direction, la fille de cousin protestant de Madame Sazerat s'était convertie au catholicisme et la famille avait été parfaite pour lui. Il fut question d'un mariage avec un noble de Méséglise. Les parents du jeune homme écrivirent, pour prendre des informations, une lettre assez dédaigneuse et où l'origine protestante était méprisée. Le curé de Combray répondit d'un tel ton que le noble de Méséglise, courbé et prosterné, écrivit une lettre bien différente où il sollicitait comme la plus précieuse faveur de s'unir à la jeune fille. Françoise n'eut pas de mérite à faire respecter mon sommeil par Albertine. Elle était imbue de la tradition. À un silence qu'elle garda, ou à la réponse péremptoire qu'elle fit à une proposition d'entrer chez moi ou de me faire demander quelque chose, qu'avait dû innocemment formuler Albertine, celle-ci comprit avec stupeur qu'elle se trouvait dans un monde étranger, aux coutumes inconnues, réglée par des lois de vivre qu'on ne pouvait songer à enfreindre. Elle avait déjà eu un premier pressentiment de cela à Balbec, mais à Paris, n'essaya même pas de résister, et attendit patiemment chaque matin mon coup de sonnette pour oser faire du bruit. L'éducation que lui donna Françoise fut salutaire, d'ailleurs, à notre vieille servante elle-même, en calmant peu à peu les gémissements que, depuis le retour de Balbec, elle ne cessait de pousser. Car, au moment de monter dans le tram, elle s'était aperçue qu'elle avait oublié de dire adieu à la gouvernante de l'hôtel. Personne moustachue qui surveillait les étages connaissait à peine Françoise, mais avait été relativement polie pour elle. Françoise voulait absolument faire retour en arrière, descendre du tram, revenir à l'hôtel, faire ses adieux à la gouvernante et ne partir que le lendemain. La sagesse et surtout mon horreur subite de Balbec m'empêchèrent de lui accorder cette grâce. Mais elle en avait contracté une mauvaise humeur maladive et fiévreuse que le changement d'air n'avait pas suffi à faire disparaître et qui se prolongeait à Paris. Car, selon le code de Françoise, tel qu'il est illustré dans les bas-reliefs de Saint-André-des-Champs, souhaiter la mort d'un ennemi, la lui donner même, n'est pas défendu. Mais il est horrible de ne pas faire ce qui se doit, de ne pas rendre une politesse, de ne pas faire ses adieux avant de partir, comme une vraie malotrue, à une gouvernante d'étage. Pendant tout le voyage, le souvenir, à chaque moment renouvelé, qu'elle n'avait pas pris congé de cette femme, avait fait monter aux joues de Françoise un vermillon qui pouvait effrayer. Et si elle refusa de boire et de manger jusqu'à Paris, c'est peut-être parce que ce souvenir lui mettait un poids réel sur l'estomac. Chaque classe sociale a sa pathologie, plus encore que pour nous pudir. Parmi les causes qui faisaient que maman m'envoyait tous les jours une lettre, et une lettre d'où n'était jamais absente quelques citations de Madame de Sévigné, il y avait le souvenir de ma grand-mère. Maman m'écrivait « Madame Sazerat nous a donné un de ces petits déjeuners dont elle a le secret, et qui, comme eût dit la pauvre grand-mère en citant Madame de Sévigné, nous enlèvent à la solitude sans nous apporter la société. » Dans mes premières réponses, j'eus la bêtise d'écrire à maman « À ces citations, ta mère te reconnaîtrait tout de suite. » Ce qui me valut 3 jours après ce mot. « Mon pauvre fils, si c'était pour me garder de ma mère, tu invoques bien mal à propos Madame de Sévigné. Elle t'aurait répondu comme elle fit à Madame de Grignan. Elle ne vous était donc rien ? Je vous croyais parent. » Cependant, j'entendais les pas de mon ami qui sortait de sa chambre ou y entrait. Je sonnais, car c'était l'heure où André allait venir avec le chauffeur, amie de Morel et fournie par les Verdurin, cherchait Albertine. J'avais parlé à celle-ci de la possibilité lointaine de nous marier, mais je ne l'avais jamais fait formellement. Elle-même, par discrétion, quand j'avais dit « Je ne sais pas, mais ce serait peut-être possible », avait secoué la tête avec un mélancolique sourire, disant « Mais non, ce ne le serait pas », ce qui signifiait « Je suis trop pauvre ». Et alors, tout en disant « Rien n'est moins sûr », quand il s'agissait de projets d'avenir, présentement je faisais tout pour la distraire, lui rendre la vie agréable, cherchant peut-être aussi, inconsciemment, à lui faire par là désirer de m'épouser. Elle riait elle-même de tout ce luxe. « C'est la mère d'André qui en ferait une tête, de me voir devenue une dame riche comme elle, ce qu'elle appelle une dame qui a chevaux, voitures, tableaux. Comment? Je ne vous avais jamais raconté qu'elle disait cela? Oh, c'est un type! Ce qui m'étonne, c'est qu'elle élève les tableaux à la dignité des chevaux et des voitures. » On verra plus tard que, malgré les habitudes de parler stupide qui lui étaient restées, Albertine s'était étonnamment développée, ce qui m'était entièrement égal, les supériorités d'esprit d'une compagne m'ayant toujours si peu intéressée que, si je les ai fait remarquer à l'une ou à l'autre, cela a été par pure politesse. Seul peut-être le curieux génie de Françoise m'eût peut-être plu. Malgré moi, je souriais pendant quelques instants quand, par exemple, ayant profité de ce qu'elle avait appris qu'Albertine n'était pas là, elle m'abordait par ces mots. « Divinité du ciel déposée sur un lit !» Je disais « Mais voyons, Françoise, pourquoi divinité du ciel ?»« Oh, si vous croyez que vous avez quelque chose de ceux qui voyagent sur notre ville terre, vous vous trompez bien !» « Mais pourquoi déposer sur un lit? Vous voyez bien que je suis couchée. »« Vous n'êtes jamais couchée. A-t-on jamais vu personne coucher ainsi? Vous êtes venue vous poser là. Votre pyjama, en ce moment tout blanc, avec vos mouvements de cou, vous donne l'air d'une colombe. » Albertine, même dans l'ordre des choses bêtes, s'exprimait tout autrement que la petite fille qu'elle était il y avait seulement quelques années à Balbec. Elle allait jusqu'à déclarer, à propos d'un événement politique qu'elle blâmait, « Je trouve ça formidable !» Et je ne sais si ce ne fut vers ce temps-là qu'elle apprit à dire, pour signifier qu'elle trouvait un livre mal écrit, « C'est intéressant, mais, par exemple, c'est écrit comme par un cochon !» La défense d'entrer chez moi, avant que j'eusse sonné, l'amusait beaucoup. Comme elle avait pris notre habitude familiale des citations et utilisé pour elle celle des pièces qu'elle avait jouées au couvent et que je lui avais dit aimer, elle me comparait toujours à Assuérus. Et la mort est le prix de tout audacieux qui, sans être appelé, se présente à ses yeux. Rien ne met à l'abri de cet ordre fatal, ni le rang, ni le sexe, et le crime est égal. Moi-même, je suis à cette loi comme une autre soumise, et sans le prévenir, il faut pour lui parler, qu'il me cherche ou du moins qu'il me fasse appeler. Physiquement, elle avait changé aussi. Ses longs yeux bleus, plus allongés, n'avaient pas gardé la même forme. Ils avaient bien la même couleur, mais semblaient être passés à l'état liquide. Si bien que, quand elle les fermait, c'était comme quand, avec des rideaux, on empêche de voir la mer. C'est sans doute de cette partie d'elle-même que je me souvenais surtout, chaque nuit en la quittant. Car, par exemple, tout au contraire, chaque matin, le crépelage de ses cheveux me causa longtemps la même surprise, comme une chose nouvelle que je n'aurais jamais vue. Et pourtant, au-dessus du regard souriant d'une jeune fille, qu'y a-t-il de plus beau que cette couronne bouclée de violettes noires? le sourire propose plus d'amitié. Mais les petits crochets vernis des cheveux en fleurs, plus parents de la chair, dont il semble la transposition en vaguelette, attrapent davantage le désir. À peine entrée dans ma chambre, elle sautait sur le lit et quelquefois définissait mon genre d'intelligence. Jurait dans un transport sincère qu'elle aimerait mieux mourir que de me quitter. C'était les jours où je m'étais rasée avant de la faire venir. Elle était de ces femmes qui ne savent pas démêler la raison de ce qu'elles ressentent. Le plaisir que leur cause un teint frais, elles l'expliquent par les qualités morales de celui qui leur semble, pour leur avenir, présenter une possibilité de bonheur, capable du reste de décroître et de devenir moins nécessaire au fur et à mesure qu'on laisse pousser sa barbe. Je lui demandais où elle comptait aller. « Je crois qu'André veut me mener au Buttes-Chaumont que je ne connais pas. » Certes, il m'était impossible de deviner, entre tant d'autres paroles, si sous celle-là un mensonge était caché. D'ailleurs, j'avais confiance en André pour me dire tous les endroits où elle allait avec Albertine. À Balbec, quand je m'étais sentie trop las d'Albertine, j'avais compté dire mensongèrement à André « Ma petite André, si seulement je vous avais revue plus tôt, c'était vous que j'aurais aimé. Mais maintenant, mon cœur est fixé ailleurs. Tout de même, nous pouvons nous voir beaucoup, car mon amour pour une autre me cause de grands chagrins et vous m'aiderez à me consoler. » Or, ces mêmes paroles de mensonge étaient devenues vérité à 3 semaines de distance. Peut-être André avait-elle cru, à Paris, que c'était en effet un mensonge et que je l'aimais, mais elle l'aurait sans doute cru à Balbec. Car la vérité change tellement pour nous que les autres ont peine à s'y reconnaître. Et comme je savais qu'elle me raconterait tout ce qu'elles auraient fait, Albertine et elle, je lui avais demandé, et elle avait accepté, de venir la chercher presque chaque jour. Ainsi, je pourrais, sans souci, rester chez moi. Et ce prestige d'André, d'être une des filles de la petite bande, me donnait confiance qu'elle obtiendrait tout ce que je voudrais d'Albertine. Vraiment, j'aurais pu lui dire maintenant, en toute vérité, qu'elle serait capable de me tranquilliser. D'autre part, mon choix d'André, laquelle se trouvait être à Paris, ayant renoncé à son projet de revenir à Balbec, comme guide de mon ami, avait tenu à ce qu'Albertine me racontât de l'affection que son ami avait eue pour moi à Balbec, à un moment, au contraire, où je craignais de l'ennuyer. Et si je l'avais su alors, c'est peut-être André que j'eusse aimé. « Comment, vous ne le saviez pas ?» me dit Albertine. « Nous en plaisantions pourtant entre nous. Du reste, vous n'avez pas remarqué qu'elle s'était mise à prendre vos manières de parler, de raisonner ? Surtout quand elle venait de vous quitter, c'était frappant. Elle n'avait pas besoin de nous dire si elle vous avait vu. Quand elle arrivait, si elle venait d'auprès de vous, cela se voyait à la première seconde. Nous nous regardions entre nous et nous rions. Elle était comme un charbonnier qui voudrait faire croire qu'il n'est pas charbonnier. Il est tout noir. Un meunier n'a pas besoin de dire qu'il est meunier. On voit bien toute la farine qu'il a sur lui. Il y a encore la place des sacs qu'il a portés. André, c'était la même chose. Elle tournait ses sourcils contre vous, et puis son grand cou. Enfin, je ne peux pas vous dire. Quand je prends un livre qui a été dans votre chambre, je peux le lire dehors. On sait tout de même qu'il vient de chez vous, parce qu'il garde quelque chose de vos sales fumigations. C'est un rien, mais c'est un rien, au fond, qui est assez gentil. Chaque fois que quelqu'un avait parlé de vous gentiment, avait eu l'air de faire grand cas de vous, André était dans le ravissement. Malgré tout, pour éviter qu'il y eût quelque chose de préparé à mon insu, je conseillais d'abandonner pour ce jour-là les Buttes-Chaumont et d'aller plutôt à Saint-Cloud ou ailleurs. Ce n'est pas, certes, je le savais, que j'aimasse Albertine le moins du monde. L'amour n'est peut-être que la propagation de ces remous qui, à la suite d'une émotion, émeuvent l'âme. Certains avaient remué mon âme tout entière quand Albertine m'avait parlé, à Balbec, de Mademoiselle Vinteuil. Mais ils étaient maintenant arrêtés. Je n'aimais plus Albertine, car il ne me restait plus rien de la souffrance, guérie maintenant, que j'avais eue dans le tram à Balbec, en apprenant qu'elle avait été l'adolescence d'Albertine, avec des visites peut-être à Montjouvain. Tout cela, j'y avais trop longtemps pensé. C'était guéri. Mais, par instant, certaines manières de parler d'Albertine me faisaient supposer, je ne sais pourquoi, qu'elle avait dû recevoir dans sa vie encore si courte beaucoup de compliments, de déclarations, et les recevoir avec plaisir, autant dire avec sensualité. Ainsi, elle disait, à propos de n'importe quoi, « C'est vrai ? C'est bien vrai ?» Certes, si elle avait dit comme une Odette, « C'est bien vrai ce gros mensonge-là » je ne m'en fusse pas inquiétée, car le ridicule de la formule se fut expliqué par une stupide banalité d'esprit de femme. Mais son air interrogateur, « C'est vrai ?» donnait d'une part l'étrange impression d'une créature qui ne peut se rendre compte des choses par elle-même, qui en appelle à votre témoignage, comme si elle ne possédait pas les mêmes facultés que vous. On lui disait « Voilà une heure que nous sommes partis » ou « Il pleut ». Elle demandait « C'est vrai ?» Malheureusement, d'autre part, ce manque de facilité à se rendre compte par soi-même des phénomènes extérieurs ne devait pas être la véritable origine de « C'est vrai ? C'est bien vrai ?» Il semblait plutôt que ces mots eussent été, dès sa nubilité précoce, des réponses à des « Vous savez que je n'ai jamais trouvé une personne aussi jolie que vous ? Vous savez que j'ai un grand amour pour vous ? Que je suis dans un état d'excitation terrible ?» Affirmations auxquelles répondait, avec une modestie coquettement consentante, « C'est vrai ? C'est bien vrai ?» lesquelles ne servaient plus à Albertine avec moi qu'à répondre par une question à une affirmation telle que « Vous avez sommeillé plus d'une heure. C'est vrai ?» Sans me sentir le moins du monde amoureux d'Albertine, sans faire figurer au nombre des plaisirs les moments que nous passions ensemble, j'étais restée préoccupée de l'emploi de son temps. Certes, j'avais fui Balbec pour être certain qu'elle ne pourrait plus voir telle ou telle personne avec laquelle j'avais tellement peur qu'elle ne fît le mal en riant, peut-être en riant de moi, que j'avais adroitement tenté de rompre d'un seul coup, par mon départ, toutes ces mauvaises relations. Et Albertine avait une telle force de passivité, une si grande faculté d'oublier et de se soumettre, que ces relations avaient été brisées, en effet, et la phobie qui me hantait guérie. Mais elle peut revêtir autant de formes que le mal incertain qui est son objet. Tant que ma jalousie ne s'était pas réincarnée en des êtres nouveaux, j'avais eu, après mes souffrances passées, un intervalle de calme. Mais à une maladie chronique, le moindre prétexte sert pour renaître, comme, d'ailleurs, au vice de l'être qui est cause de cette jalousie, la moindre occasion peut servir pour s'exercer à nouveau, après une trêve de chasteté, avec des êtres différents. J'avais pu séparer Albertine de ses complices, et, par là, exorciser mes hallucinations. Si on pouvait lui faire oublier les personnes, rendre bref ses attachements, son goût du plaisir était, lui aussi, chronique et n'attendait peut-être qu'une occasion pour se donner cours. Or, Paris en fournit autant que Balbec. Dans quelque ville que ce fût, elle n'avait pas besoin de chercher, car le mal n'était pas en Albertine seule, mais en d'autres, pour qui toute occasion de plaisir est bonne. Un regard de l'une, aussitôt compris de l'autre, rapproche les deux affamés. Et il est facile à une femme adroite d'avoir l'air de ne pas voir, puis 5 minutes après, d'aller vers la personne qui a compris et l'a attendue dans une rue de traverse, et, en 2 mots, de donner un rendez-vous. Qui saura jamais? Et il était si simple à Albertine de me dire, afin que cela continuât, qu'elle désirait revoir tel environ de Paris qui lui avait plu. Aussi suffisait-il qu'elle rentrât trop tard, que sa promenade eût duré un temps inexplicable, quoique peut-être très facile à expliquer, sans faire intervenir aucune raison sensuelle, pour que mon mal renaquît, attaché cette fois à des représentations qui n'étaient pas de Balbec, et que je m'efforcerais, ainsi que les précédentes, de détruire, comme si la destruction d'une cause éphémère pouvait entraîner celle d'un mal congénital. Je ne me rendais pas compte que, dans ces destructions où j'avais pour complice, en Albertine, sa faculté de changer, son pouvoir d'oublier, presque de haïr, l'objet récent de son amour, je causais quelquefois une douleur profonde à tel ou tel de ces êtres inconnus avec qui elle avait pris successivement du plaisir, et que cette douleur, je la causais vainement, car il serait délaissé, remplacé, et parallèlement au chemin jalonné par tant d'abandon qu'elle commettrait à la légère, sans poursuivre pour moi un autre impitoyable, à peine interrompu de bien court répit. De sorte que ma souffrance ne pouvait, si j'avais réfléchi, finir qu'avec Albertine ou qu'avec moi. Même les premiers temps de notre arrivée à Paris, insatisfait des renseignements qu'André et le chauffeur m'avaient donnés sur les promenades qu'ils faisaient avec mon ami, j'avais senti les environs de Paris aussi cruels que ceux de Balbec, et j'étais parti quelques jours en voyage avec Albertine. Mais partout, l'incertitude de ce qu'elle faisait était la même. Les possibilités que ce fût le mal aussi nombreuses, la surveillance encore plus difficile, si bien que j'étais revenu avec elle à Paris. En réalité, en quittant Balbec, j'avais cru quitter Gomorre, en arracher Albertine. Hélas, Gomorre était dispersé aux 4 coins du monde, et moitié par ma jalousie, moitié par ignorance de ses joies, cas qui est fort rare, j'avais réglé à mon insu cette partie de cache-cache où Albertine m'échapperait toujours. Je l'interrogeais à brûle-pourpoint. « Ah, à propos, Albertine, est-ce que je rêve? Est-ce que vous ne m'aviez pas dit que vous connaissiez Gilberte Swann ?»« Oui, c'est-à-dire qu'elle m'a parlé au cours, parce qu'elle avait les cahiers d'histoire de France. Elle-même a été très gentille, elle me les a prêtés, et je les lui ai rendus aussitôt que je l'ai vue. » Est-ce qu'elle est du genre de femme que je n'aime pas? Oh, pas du tout, tout le contraire. Mais plutôt que de me livrer à ce genre de causerie investigatrice, je consacrais souvent à imaginer la promenade d'Albertine, les forces que je n'employais pas à la faire, et je parlais à mon amie avec cette ardeur que gardent intacts les projets inexécutés. J'exprimais une telle envie d'aller revoir tel vitrail de la Sainte-Chapelle, un tel regret de ne pas pouvoir le faire avec elle seule, que tendrement elle me disait « Mais, mon petit, puisque cela a l'air de vous plaire tant, faites un petit effort, venez avec nous, nous attendrons aussi tard que vous voudrez, jusqu'à ce que vous soyez prêt. D'ailleurs, si cela vous amuse plus d'être seul avec moi, je n'ai qu'à réexpédier André chez elle, elle viendra une autre fois. » Mais ses prières mêmes de sortir ajoutaient au calme qui me permettait de rester à la maison. Je ne songeais pas que l'apathie qu'il y avait à se décharger ainsi sur André ou sur le chauffeur, du soin de calmer mon agitation, en les laissant surveiller Albertine, ankylosait en moi, rendait inerte tous ces mouvements imaginatifs de l'intelligence, toutes ces inspirations de la volonté qui aident à deviner, à empêcher ce que va faire une personne. Certes, par nature, le monde des possibilités m'a toujours été plus ouvert que celui de la contingence réelle. Cela aide à connaître l'âme, mais on se laisse tromper par les individus. Ma jalousie naissait par des images, pour une souffrance, non d'après une probabilité. Or, il peut y avoir dans la vie des hommes et dans celle des peuples, et il devait y avoir dans la mienne, un jour où on a besoin d'avoir en soi un préfet de police, un diplomate à claire vue, un chef de la sûreté, qui, au lieu de rêver au possible que recèle l'étendue jusqu'aux quatre points cardinaux, raisonne juste, se dit « Si l'Allemagne déclare ceci, c'est qu'elle veut faire telle autre chose. Non pas une autre chose dans le vague, mais bien précisément ceci ou cela, qui même peut-être déjà commencé. Si telle personne s'est enfuie, ce n'est pas vers les buts A, B, D, mais vers le but C. » Et l'endroit où il faut opérer nos recherches est C. Hélas, cette faculté qui n'était pas très développée chez moi, je la laissais s'engourdir, perdre ses forces, disparaître, en m'habituant à être calme du moment que d'autres s'occupaient de surveiller pour moi. Quant à la raison de ce désir de ne pas sortir, cela m'eût été désagréable de la dire à Albertine. Je lui disais que le médecin m'ordonnait de rester couché. Ce n'était pas vrai. Et cela l'eût-il été que ces prescriptions n'eussent pu m'empêcher d'accompagner mon amie. Je lui demandais la permission de ne pas venir avec elle et André. Je ne dirai qu'une des raisons, qui était une raison de sagesse. Dès que je sortais avec Albertine, pour peu qu'un instant elle fût sans moi, j'étais inquiet. Je me figurais que peut-être elle avait parlé à quelqu'un ou seulement regardé quelqu'un. Si elle n'était pas d'excellente humeur, je pensais que je lui faisais manquer ou remettre un projet. La réalité n'est jamais qu'une amorce à un inconnu sur la voie duquel nous ne pouvons aller bien loin. Il vaut mieux ne pas savoir, penser le moins possible, ne pas fournir à la jalousie le moindre détail concret. Malheureusement, à défaut de la vie extérieure, des incidents aussi sont amenés par la vie intérieure. À défaut des promenades d'Albertine, les hasards rencontrés dans les réflexions que je faisais seule me fournissaient parfois de ces petits fragments de réel qui attirent à eux, à la façon d'un aimant, un peu d'inconnu, qui, dès lors, devient douloureux. On a beau vivre sous l'équivalent d'une cloche pneumatique, les associations d'idées, les souvenirs continuent à jouer. Mais ces heurts internes ne se produisaient pas tout de suite. À peine Albertine était-elle partie pour sa promenade que j'étais vivifiée, fût-ce pour quelques instants, par les exaltantes vertus de la solitude. Je prenais ma part des plaisirs de la journée commençante. Le désir arbitraire, la velléité capricieuse et purement mienne, de les goûter n'eût pas suffi à les mettre à portée de moi si le temps spécial qu'il faisait ne m'en avait, non pas seulement évoqué les images passées, mais affirmé la réalité actuelle, immédiatement accessible à tous les hommes qu'une circonstance contingente et par conséquent négligeable ne forçait pas à rester chez eux. Certains beaux jours, il faisait si froid, on était en si large communication avec la rue, et qu'il semblait qu'on eût disjoint les murs de la maison, et chaque fois que passait le tramway, son timbre résonnait comme eût fait un couteau d'argent frappant une maison de verre. Mais c'était surtout en moi que j'entendais, avec ivresse, un son nouveau rendu par le violon intérieur. Ses cordes sont serrées ou détendues par de simples différences de la température, de la lumière extérieure. En notre être, instrument que l'uniformité de l'habitude a rendu silencieux, le chant naît de ces écarts, de ces variations, source de toute musique. Le temps qu'il fait certains jours nous fait aussitôt passer d'une note à une autre. Nous retrouvons l'air oublié dont nous aurions pu deviner la nécessité mathématique et que pendant les premiers instants nous chantons sans le connaître. Seules ces modifications internes, bien que venues du dehors, renouvelaient pour moi le monde extérieur. Des portes de communication, depuis longtemps condamnées, se rouvraient dans mon cerveau. La vie de certaines villes, la gaieté de certaines promenades, reprenaient en moi leur place. Frémissant tout entier autour de la corde vibrante, j'aurais sacrifié ma terne vie d'autrefois et ma vie à venir, passée à la gomme à effacer de l'habitude, pour cet état si particulier. Si je n'étais pas allée accompagner Albertine dans sa longue course, mon esprit n'en vagabondait que davantage, et pour avoir refusé de goûter avec mes sens cette matinée-là, je jouissais en imagination de toutes les matinées pareilles, passées ou possibles, plus exactement d'un certain type de matinée, dont toutes celles du même genre n'étaient que l'intermittente apparition, et que j'avais vite reconnue. Car l'air vif tournait de lui-même les pages qu'il fallait, et je trouvais tout indiqué devant moi, pour que je pusse le suivre de mon lit, l'évangile du jour. Cette matinée idéale comblait mon esprit de réalité permanente, identique à toutes les matinées semblables, et me communiquait une allégresse que mon état de débilité ne diminuait pas. Le bien-être résultant pour nous beaucoup moins de notre bonne santé que de l'excédent inemployé de nos forces, nous pouvons y atteindre, tout aussi bien qu'en augmentant celle-ci, en restreignant notre activité. Celle dont je débordais et que je maintenais en puissance dans mon lit me faisait tressauter, intérieurement bondir, comme une machine qui, empêchée de changer de place, tourne sur elle-même. Françoise venait allumer le feu et, pour le faire prendre, y jetait quelques brindilles dont l'odeur, oubliée pendant tout l'été, décrivait autour de la cheminée un cercle magique dans lequel, m'apercevant moi-même en train de lire, tantôt à Combray, tantôt à Doncières, j'étais aussi joyeux, restant dans ma chambre à Paris, que si j'avais été sur le point de partir en promenade du côté de mes églises, ou de retrouver Saint-Loup et ses amis faisant du service en campagne. Il arrive souvent que le plaisir qu'ont tous les hommes à revoir les souvenirs que leur mémoire a collectionnés est le plus vif, par exemple, chez ceux que la tyrannie du mal physique et l'espoir quotidien de sa guérison, d'une part, privent d'aller chercher dans la nature des tableaux qui ressemblent à ces souvenirs, et d'autre part, laissent assez confiants qu'ils le pourront bientôt faire pour rester vis-à-vis d'eux en état de désir, d'appétit, et de ne pas les considérer seulement comme des souvenirs, comme des tableaux. Mais eussent-ils dû n'être jamais que cela pour moi, et eussé-je pu, en me les rappelant, les revoir seulement, que soudain ils refaisaient en moi, de moi tout entier, par la vertu d'une sensation identique, l'enfant, l'adolescent qui les avait vus. Il n'y avait pas eu seulement changement de temps dehors, ou dans la chambre modification d'odeur, mais en moi, différence d'âge, substitution de personne. L'odeur, dans l'air glacé des brindilles de bois, c'était comme un morceau du passé, une banquise invisible détachée d'un hiver ancien qui s'avançait dans ma chambre, souvent striée d'ailleurs par tel parfum, telle lueur, comme par des années différentes, où je me retrouvais replongée, envahie, avant même que je les eusse identifiés, par l'allégresse d'espoirs abandonnés depuis longtemps. Le soleil venait jusqu'à mon lit et traversait la cloison transparente de mon corps aminci, me chauffait, me rendait brûlant comme du cristal. Alors, convalescent affamé qui se repaît déjà de tous les mets qu'on lui refuse encore, je me demandais si me marier avec Albertine ne gâcherait pas ma vie, tant en me faisant assumer la tâche trop lourde pour moi de me consacrer à un autre être, qu'en me forçant à vivre absent de moi-même à cause de sa présence continuelle et en me privant à jamais des joies de la solitude. Et pas de celle-là seulement. Même en ne demandant à la journée que des désirs, il en est certain, ceux que provoquent non plus les choses, mais les êtres, dont le caractère est d'être individuel. Si, sortant de mon lit, j'allais écarter un instant le rideau de ma fenêtre, ce n'était pas seulement comme un musicien ouvre un instant son piano, et pour vérifier si, sur le balcon et dans la rue, la lumière du soleil était exactement au même diapason que dans mon souvenir. C'était aussi pour apercevoir quelque blanchisseuse portant son panier à linge, une boulangère à tablier bleu, une laitière à bavette et manches de toile blanche, tenant le crochet où sont suspendues les carafes de lait, quelque fière jeune fille blonde suivant son institutrice. Une image, enfin, que les différences de lignes, peut-être quantitativement insignifiantes, suffisaient à faire aussi différente de tout autre que pour une phrase musicale la différence de deux notes, et sans la vision de laquelle j'aurais appauvri la journée des buts qu'elle pouvait proposer à mes désirs de bonheur. Mais si le surcroît de joie apporté par la vue des femmes impossibles à imaginer a priori, me rendait plus désirable, plus digne d'être exploré, la rue, la ville, le monde. Il me donnait par là même la soif de guérir, de sortir, et sans Albertine, d'être libre. Que de fois, au moment où la femme inconnue dont j'allais rêver passait devant la maison, tantôt à pied, tantôt avec toute la vitesse de son automobile, je souffris que mon corps ne puisse suivre mon regard qui la rattrapait, et tombant sur elle, comme tiré de l'embrasure de ma fenêtre par une arquebuse, arrêter la fuite du visage dans lequel m'attendait l'offre d'un bonheur qu'ainsi cloîtré je ne goûterais jamais. D'Albertine, en revanche, je n'avais plus rien à apprendre. Chaque jour, elle me semblait moins jolie. Seul le désir qu'elle excitait chez les autres, quand, l'apprenant, je recommençais à souffrir et voulais la leur disputer, la hissait à mes yeux sur un haut pavois. Elle était capable de me causer de la souffrance, nullement de la joie. Par la souffrance seule subsistait mon ennuyeux attachement. Dès qu'elle disparaissait, et avec elle le besoin de l'apaiser, requérant toute mon attention comme une distraction atroce, je sentais le néant qu'elle était pour moi, que je devais être pour elle. J'étais malheureux que cet état durât, et par moments je souhaitais d'apprendre quelque chose d'épouvantable qu'elle aurait fait et qui eût été capable, jusqu'à ce que je fusse guéri, de nous brouiller, ce qui nous permettrait de nous réconcilier, de refaire différente et plus souple la chaîne qui nous liait. En attendant, je chargeais mille circonstances, mille plaisirs de lui procurer auprès de moi l'illusion de ce bonheur que je ne me sentais pas capable de lui donner. J'aurais voulu, dès ma guérison, partir pour Venise. Mais comment le faire? Si j'épousais Albertine, moi, si jaloux d'elle, que même à Paris, dès que je me décidais à bouger, c'était pour sortir avec elle. Même quand je restais à la maison toute l'après-midi, ma pensée la suivait dans sa promenade, décrivait un horizon lointain, bleuâtre, engendrait autour du centre que j'étais une zone mobile d'incertitude et de vagues. Combien Albertine, me disais-je, m'épargnerait les angoisses de la séparation si, au cours d'une de ces promenades, voyant que je ne lui parlais plus de mariage, elle se décidait à ne pas revenir et partait chez sa tante sans que j'eusse à lui dire adieu. Mon cœur, depuis que sa plaie se cicatrisait, commençait à ne plus adhérer à celui de mon ami. Je pouvais, par l'imagination, la déplacer, l'éloigner de moi sans souffrir. Sans doute, à défaut de moi-même, quelque autre serait son époux. Et, libre, elle aurait peut-être de ces aventures qui me faisaient horreur. Mais il faisait si beau, j'étais si certain qu'elle rentrerait le soir, que, même si cette idée de faute possible me venait à l'esprit, je pouvais, par un acte libre, l'emprisonner dans une partie de mon cerveau, où elle n'avait pas plus d'importance que n'en aurait eu pour ma vie réelle les vices d'une personne imaginaire. Faisant jouer les gonds assouplis de ma pensée, j'avais, avec une énergie que je sentais dans ma tête, à la fois physique et mentale, comme un mouvement musculaire et une initiative spirituelle, dépassé l'état de préoccupation habituel où j'avais été confiné jusqu'ici, et commençais à me mouvoir à l'air libre, d'où tout sacrifier pour empêcher le mariage d'Albertine avec un autre et faire obstacle à son goût pour les femmes, paraissait aussi déraisonnable à mes propres yeux qu'à ceux de quelqu'un qui ne l'eût pas connue.